Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Florian Delorme.
Et depuis lundi, Paris accueille la 7e conférence de l'IPBES, surnommée le GIEC de la biodiversité. Les scientifiques et représentants de 132 pays travaillent pour essayer d'enrayer l'effondrement des espèces et de ralentir leur disparition progressive. Depuis plusieurs années maintenant, les études s'enchaînent pour nous alerter sur le déclin de la faune et de la flore. Alors comment éviter l'extinction? Bonjour Hélène Soubelet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et vous participez à ce sommet mondial à Paris qui réunit, donc je le disais, les experts de l'IPBES. Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est justement cette plateforme et puis les enjeux de cette conférence ?
Donc, la plateforme, c'est une plateforme intergouvernementale, donc internationale, qui a été créée en 2012, à la suite d'un constat simple, hein, c'était que sur la biodiversité, on avait énormément de résultats scientifiques, mais que on avait besoin d'un certain rassemblement de ces résultats et de pouvoir aussi engager les États dans la compréhension de ces résultats et ensuite dans la mise en œuvre de mesures pratiques pour enrayer le déclin de la biodiversité.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de la biodiversité et en même temps, cette conférence, elle fait pas l'objet d'une attention politique et médiatique massive alors que ça se passe à Paris. Alors je sais bien qu'il y a beaucoup d'autres sujets particulièrement brûlants en ce moment, mais est-ce que vous diriez que globalement la préservation de la biodiversité c'est un enjeu qui mobilise assez peu, en tout cas au regard des enjeux?
Alors, c'est un enjeu qui mobilise assez peu à certains niveaux. C'est-à-dire qu'on constate tout de même qu'il y a un engouement, un démarrage de véritables prises de conscience à certains niveaux de la société. Par exemple, les acteurs de la société civile, comme les industriels, commencent vraiment à s'intéresser à la biodiversité, au même titre que le climat. C'est vrai aussi pour les particuliers, les citoyens, hein, qui commencent, les enjeux de biodiversité commencent de plus en plus à être partagés. Par contre, ce qu'on peut regretter aussi, effectivement, c'est que au niveau politique, même si de grands objectifs peuvent être acquis, on a encore du mal à passer à des actions qui soient vraiment majeures sur la biodiversité.
On va y revenir. Justement, les actions, là, les experts, les représentants préparent un texte qui sera publié le 6 mai prochain. Il devrait présenter des mesures, des objectifs collectifs. Est-ce qu'on a un tout petit peu une idée de ce qu'il pourrait y avoir dans ce texte? Est-ce qu'il sera contraignant? Est-ce qu'il y aura des mesures coercitives pour les pays signataires qui ne respecteraient pas ces engagements? Qu'est-ce qui va se passer là?
Alors, l'IPBES, en fait, c'est une plateforme scientifique et politique. Donc, elle ne produit pas de mesures contraignantes pour les États. D'ailleurs, les États qui sont réunis en ce moment s'en assurent, hein, sont vigilants à ce titre. Mais par contre, ça représentera une base scientifique quand même importante, puisqu'il y a 150 scientifiques qui ont travaillé à cette évaluation mondiale. Elle fait 1700 pages et elle regroupe 15 000 publications scientifiques. Donc, tout l'enjeu, en fait, de ce qui se passe cette semaine, c'est par rapport à ce rapport, c'est d'en synthétiser les résultats les plus importants et d'essayer de les transcrire en des termes compréhensibles pour les décideurs.
Donc seulement un travail de synthèse, pas véritablement de discorde comme on peut le voir au grand sommet sur le climat.
Alors, si, il y a quand même des discordes dans la communauté scientifique sur un certain nombre de choses.
Sur
par exemple, le nombre d'espèces, qui existent sur Terre, hein, c'est encore quelque chose qui est très incertain. En fait, avec la biodiversité, on est dans une situation d'incertitude, une situation complexe, et surtout une situation stochastique, c'est-à-dire que les réponses des organismes à des pressions humaines sont difficiles à quantifier, sont difficiles à prévoir.
Mais pas de querelles diplomatiques.
Or, il y a toujours des querelles diplomatiques, hein, mais ça, c'est parce qu'en fait, là, on est
avec l'équipe. Parce que évidemment, pardon, mais je pense aux États-Unis. On sait bien que l'administration de Donald Trump s'est retirée de l'accord sur le climat de Paris. Est-ce que aujourd'hui, vous les sentez disposés justement à discuter, négocier, se mettre d'accord avec l'ensemble de la communauté internationale sur ces questions?
Alors, en réalité, effectivement, si c'est de ça dont vous parlez, oui, il y a pas réellement de querelles diplomatiques au sein de l'IPBES, parce que c'est vraiment plus se prononcer sur quels résultats scientifiques on va sortir pour le mettre en avant et quels sont les messages clés associés à ces résultats scientifiques qui permettent en fait d'engager un changement sociétal.
On ne remet pas en cause l'effondrement de la biodiversité du côté de Washington?
Non. Enfin, du côté de Washington, je ne sais pas, mais au moins les délégués qui sont là, on est tous plus ou moins convaincus et des défenseurs de l'environnement.
En 2010, Hélène Soubelet, il y a eu un plan stratégique pour la biodiversité qui a été adopté. Il s'appelle Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et les objectifs d'Aichi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les objectifs et surtout nous dire si on est en phase de les atteindre ou pas?
Alors il y a eu plusieurs phases d'objectifs sur la biodiversité, sur l'environnement en général, qui tous tendent en fait, par diverses mesures, à essayer de protéger cette biodiversité. Alors les objectifs d'Alechi, c'est vrai qu'ils arrivent à terme en 2020 et il y a un consensus tout de même pour dire qu'on ne les atteindra, on ne les atteindra pas. C'est-à-dire que les objectifs prévoyaient par exemple de limiter l'érosion de la biodiversité et d'augmenter les aires protégées, etc. Ce genre de mesures.
Sur les aires protégées, on n'y est pas.
Alors non, sur les aires protégées au niveau mondial, on n'y est pas, ça c'est clair. Certaines publications scientifiques disent par exemple qu'il faudrait protéger 40% du territoire terrestre et environ 30% du territoire marin pour réussir à enrayer le déclin de la biodiversité. Et par-delà, en fait, en réalité, c'est réussir à garantir un niveau de vie et une qualité de vie acceptable pour l'homme.
Mais les objectifs d'Aichi, c'était pas 40%, c'était 17% d'aires protégées de zones terrestres et d'eau intérieure et 10% de zones marines et côtières protégées. On n'y est pas encore. Dites-vous, pour la France, est-ce qu'on est au moins sur le bon chemin?
Oui, pour la France, on est sur le bon chemin, mais c'est vrai qu'il y a des grandes disparités régionales. Au niveau, ce que je disais, c'est qu'au niveau mondial, on n'y est pas. Pour la France, effectivement, on a réussi à atteindre cet objectif-là. Ceci dit, il reste des controverses sur qu'est-ce que c'est qu'une aire protégée en réalité, parce qu'il y a différents niveaux de protection. C'est vrai que dans les objectifs d'Aichi, ce qui était entendu, c'était quand même une protection relativement sérieuse et donc des activités humaines relativement réduites dans ces aires protégées, ce qui n'est pas toujours le cas dans les aires protégées telles que définies en France.
Hélène Soubelet, la question qu'on se pose ce matin, c'est comment éviter l'extinction. Alors évidemment, il y a ce sommet, mais il y a aussi cette semaine, le Parlement britannique a déclaré l'urgence écologique et climatique après une série d'actions de blocage organisées par le mouvement Extinction Rebellion. Vous avez évidemment suivi ça. C'est un mouvement qui est né en Grande-Bretagne et qui vise à susciter un changement radical par le biais d'actions directes, par la résistance non violente, qui commence à s'étendre d'ailleurs à d'autres pays. Quel regard vous portez sur ce mouvement et est-ce que vous pensez que désormais, la désobéissance civile, mais non violente, c'est devenu un passage obligé pour forcer les politiques à agir?
Oui, moi je pense qu'il faut absolument que les citoyens, que tout un chacun s'empare en fait de cette question, parce que il y a différents moyens, par lesquels on arrivera à faire ce changement sociétal qui est important et qui est absolument nécessaire. Et c'est aussi par la prise de conscience des citoyens et du coup leur action envers les politiques. Après, c'est vrai que il y a différents mouvements qui existent, plus ou moins radicaux. Je pense qu'il faut rester tout de même raisonnable. On estime, alors ça peut être controversé, mais on estime qu'on peut avoir quand même une dizaine d'années pour agir, qu'on n'est pas encore dans le mur, on a encore un peu de temps. Donc il n'est pas question ici de complètement tout bouleverser du jour au lendemain. Mais par contre, il faut qu'on commence à aller sur ce chemin. Il faut un moment qu'on se mette en route.
Hélène Soubelet, ça sera ma dernière question. Réponse rapide, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que c'est important de protéger la biodiversité? Après tout, il y a déjà eu des extinctions de masse, il y en a eu 5 et elles nous ont pas si mal réussi parce que si on est là, c'est aussi grâce à ces extinctions. Alors pourquoi s'inquiéter?
Alors pourquoi s'inquiéter? Parce que la biodiversité, en fait, c'est ce qui nous permet de vivre. On mange de la biodiversité, on respire grâce à la biodiversité, notre air, notre eau est épurée grâce à la biodiversité. Donc si tout ça s'effondre, en fait, on aura un monde qui deviendra invivable. Et ce qu'il faut bien savoir aussi, si j'ai 2 minutes, c'est que la biodiversité et le climat, c'est extrêmement lié. Et si vous détruisez toute la biodiversité, on aura du mal à lutter contre le changement climatique.
Merci beaucoup Hélène Soubelet. Je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Merci d'avoir été avec nous ce matin.